Et pour cela, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Hébreux 12. Ce sont les versets 1 et 2, et encore 1 et 2, juste la moitié. Ce sont des versets que Dieu m'a donnés à de nombreuses reprises, parce qu'on a un don, tous, et le même. Ce n'est pas enseigné, hein, parce que c'est tellement naturel, c'est de se charger. Mais on va en parler après. Il est dit ceci, c'est pourquoi, je lis dans la version du Semeur, hein, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est intéressant que ça vienne justement après le chapitre 11 où on a toute cette nuée de témoins, des gens fantastiques avec des résultats très différents. Hein, souvent on parle de ceux qui ont déplacé des montagnes, qui ont fait des grandes choses, puis on oublie la fin du chapitre où eux ils ont non seulement rien eu mais ils ont tout perdu. Et ils sont quand même ces témoins. Et suite à ça il dit bien, les gars, débarrassons-nous. Et là on a un petit problème. Parce que notre don c'est de nous charger. Et le Seigneur nous appelle à nous débarrasser, et rien que ce verbe-là, alors il y a plusieurs, quand on regarde les traductions, il y a rejeter aussi, mais se débarrasser c'est d'abord un acte volontaire, c'est quelque chose que je décide, c'est pas Dieu qui le décide à ma place. Et j'ai le choix de garder tout ce qui m'accable, aussi bien que de m'en débarrasser, c'est un choix. Et c'est moi qui dois répondre. Je ne peux pas répondre, même pour celle que j'aime. Je ne peux pas répondre pour mes enfants. Je ne peux répondre que pour moi. Et la réponse, il n'y a pas peut-être. Ça n'existe pas. C'est oui, non. C'est un acte volontaire. À la limite, un peu violent. Hein, quand je me débarrasse, je... Non, c'est quelque chose... J'arrache. Hein, c'est quand j'ai quelque chose qui est trop lourd, on ne le fait pas délicatement. C'est quelque chose aussi que Dieu ne fait pas à notre place. Non seulement il ne prend pas la décision à notre place, mais il ne le fait pas à notre place. Et tout à l'heure dans le chant, j'ai été un petit peu gêné, parce qu'il disait « Seigneur, libère-moi ». Non, Dieu dit « Libère-toi, décide de te libérer, arrache ce qui te gêne ». Et ce que je trouve qui est passionnant dans cette histoire, c'est que c'est mon boulot, c'est pas celui de Dieu. À la limite, hein, je me suis chargé tout seul, c'est à moi d'arracher les choses après. Si je dois me débarrasser, c'est que je me suis mis des choses qui se sont accrochées à moi, qui font presque partie intégrante de moi. C'est quelque chose, parfois même c'est tellement bien à l'intérieur qu'on ne sait plus très exactement, vous savez c'est comme les verrues. On voit ce qui est dessus, on ne voit pas toutes les ramifications qui sont à l'intérieur. Et des fois quand on arrive à sortir une verrue de façon presque intégrale, on est étonné de voir toutes les racines. On a dit mais où c'était parti tout ça là? Et le but c'est de se sentir léger. De se sentir... dégager. Et bien pour cela, il faut qu'on se débarrasse de quoi? Eh bien, de deux choses. Il y a deux choses qui nous encombrent. Les fardeaux, les péchés. En général, les péchés, on en parle. Débarrassez-vous du péché. On en reparlera après. Mais les fardeaux, alors j'ai essayé de regarder un petit peu quels pouvaient être les différents fardeaux qui nous encombrent, qui nous empêchent, et qu'on charge les uns après les autres. J'en cite quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, que chacun s'examine soi-même. Vous verrez, on est très créatif. Le premier que je citerai, c'est mes concepts, ma manière de voir les choses. Et alors, d'après moi, c'est normal que... Ben, c'est normal que demander à Jonas. Jonas, il trouvait normal de dire au roi Jéroboam II, de dire... Profites-en un maximum, le royaume d'Assyrie est en train de s'effondrer, eh bien, maintenant, vas-y, attaque, théologie de la prospérité est en route, rattrape tous les territoires que tu as perdus avant. Et il trouvait ça normal. Et en plus, c'était Dieu qui lui disait de dire ça au roi. Et puis voilà qu'un jour, Dieu lui donne une autre mission. Et lui, ça l'intéresse, de dire des bonnes choses au roi. Regardez, vous avez déjà vu un horoscope qui vous dit que vous allez être malheureux? Vous avez déjà vu ces foutus prophètes là qui vous prophétisent des mauvaises choses? Non, que des bonnes choses. Et là, d'un seul coup, notre ami Jonas, Dieu lui dit, tu vas à Ninive. Tu sais, là, l'ennemi où tu essayes de récupérer les territoires, puis même d'en grappiller encore quelques-uns d'autres, eh bien, tu vas aller pour qu'ils se repentent. Ça, Seigneur, c'est pas dans mon programme. C'est pas dans mes concepts. Ninive, c'est par là. Tarsis, c'est par là. Salut. Hop, et il part. Nos concepts, notre manière. Il y a un concept qui est en général, quand vous dites que Dieu vous appelle à aller en Afrique, on vous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Il y a plus de chrétiens en Afrique qu'en France. Pourquoi tu ne travailles pas en France? Oui, mais je ne suis pas Dieu. Et dans mon concept, ce n'est pas moi qui commande. Mais mon concept de dire que, par exemple, en France, il y a plus à faire qu'au Bénin, est un concept qui peut m'empêcher d'agir pour la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. L'inverse est vrai. De dire, ouais, mais c'est plus facile, hein. Tu as vu ce que les sous-drains ils ont raconté, là. On a la possibilité de faire des tas de trucs, et en France, on est embêté, alors allons, Bénin. Non, si Dieu t'a appelé en France, ton concept est faux et t'empêche de faire la volonté de Dieu. Une autre chose qui peut être, ce sont mes projets, mes espoirs, mes objectifs. Je vous dis franchement que j'avais jamais pensé être missionnaire en Afrique. Pour une raison simple, c'est que je voyais bien ma place en France, être infirmier, grimper dans les échelons, voilà, et puis avoir une carrière. Puis Dieu m'envoie après en Afrique. Alors bon, au début, je suis quand même infirmier dans un hôpital, donc je pensais que c'était normal. Mais alors quand il m'a dit, non, tu seras dans l'implantation d'église, je lui ai dit, là, tu te fous de moi, quoi. Ça va pas, ça rentre pas dans mes concepts, ça rentre pas dans mes projets. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est terrible, ce sont mes peurs. La peur, chacun sait que c'est la plus mauvaise des conseillères, et pourtant je pense que c'est celle à laquelle on obéit le plus. La peur est souvent directrice de beaucoup d'institutions, d'églises, de nos vies, de nos familles. Abraham a eu peur parce que d'un seul coup il a remarqué que sa femme était jolie. Puis il se trouve devant Pharaon, puis il se dit, mince, ça va mal finir pour moi. Vous voyez que ça peut être étonnant. Il peut y avoir la peur de ne pas avoir de descendants. Seigneur, tu m'as promis une nation qu'on ne pourrait compter. Attends, il faudrait peut-être commencer par un, hein. Parce que c'est bien de dire que je vais avoir une grande nation, mais pour l'instant, il n'y a même pas un descendant. Alors, Abraham, il a une idée. Il va utiliser le système culturel pour avoir un fils. Et on voit les ennuis aujourd'hui. Parfois, notre peur nous fait prendre des décisions qui sont justement celles que Dieu ne veut pas qu'on prenne, avec les conséquences qui vont avec. Ismaël est quand même assez catastrophique comme prise de décision. Et pourtant, culturellement acceptable. Tout à fait normal. La société lui offrait une solution sur un plateau. Il va y avoir Moïse qui a peur du Pharaon, parce qu'il le connaît bien. Il peut y avoir la peur de l'échec. Vous avez des gens qui sont plus sécuritaires que d'autres. Il y en a certains, je veux bien avancer, mais le premier pas, il faut qu'il soit assuré, hein. Si j'ai pas, j'avance pas. Alors avant qu'ils atteignent la porte, là, on prend la semaine. Mais la peur de l'échec peut m'amener à me charger. La peur de ce que pensent les autres. Aïe, aïe, aïe. C'est pas seulement la peur du quand dira-t-on. C'est la peur de ce que pensent les autres. Comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et j'ai tellement peur d'être agressé que finalement, je suis tétanisé, je bouge plus. Il va y avoir une arme que le diable utilise énormément, c'est sa plus grande arme, c'est celle qu'il préfère, qui travaille depuis le début, c'est le découragement. Alors celui-là, c'est extraordinaire. C'est un fardeau. Et je me décourage, et je me décourage, et je me décourage. Le moindre truc qui marche pas, le moindre truc qui me déplaît, je me décourage et je m'enfonce. Et je charge. Une autre que j'ai notée, ce sont mes inquiétudes. Je m'inquiète. Vous comprenez pourquoi Dieu nous avait donné cette phrase que Christiane a rappelée, laisse-moi faire. T'inquiète pas, c'est mon problème. Combien nous voyons des personnes et nous disons, Seigneur, nous voudrions que ces personnes se convertissent. Et alors on fait tout, on met tout en œuvre. Et puis, le Seigneur m'a touché grâce à une mauvaise note en maths. Vous aviez prévu ça comme méthode d'évangélisation ? Dieu est créatif et il sait exactement ce par quoi il va nous toucher. Mes inquiétudes ne servent à rien si ce n'est d'entraîner peut-être des frustrations qui me chargent encore. Ça peut entraîner des échecs qui vont me charger, des déceptions. Et puis il y a un autre créneau qui sont les blessures de la vie. On a été blessé, mais vous savez, bon, c'est des blessures, puis comme on est chrétien, alors, c'est des blessures, c'est rien. Bon, allez. On a pris un petit coup, et puis, ça va passer, quoi. Si t'es chrétien, vas-y. Non. Ces blessures laissent à chaque fois un petit traumatisme suffisamment fort pour qu'à la fin, ce soit une grosse plaie. Et cette grosse plaie, elle peut amener l'amertume, la haine. Et je me suis chargé. J'ai pas réglé mon passif. Alors, c'est comme quand on fait un petit crédit. C'est un petit crédit de 10 euros, c'est rien. Puis vous en faites un 10 euros et à la fin, la banque vous dit, ça fait juste un petit million, quoi. C'est, bon, les zéros ne comptent pas, c'est pas grave, mais... Et on charge par nos blessures. Ces blessures non guéries qui m'amènent à cette amertume. J'arrive plus à être heureux. Tout ce que je vois, c'est comme ça. Et l'autre, c'est celui qui m'agresse. Je ne peux plus voir en l'autre quelqu'un qui pourrait m'aimer. C'est obligatoirement quelqu'un qui va m'agresser. D'ailleurs, quand il vient, je suis comme ça. Et je peux même développer de la haine. Quand je le vois, waouh, le peu de cheveux que j'ai sur la tête se dresse. Je parle pour moi. Hein. Parce qu'il y en a d'autres ici. Je suppose que s'ils se dressaient, ça vaudrait la peine. Un autre point, c'est le manque de pardon. Le pardon donné et le pardon reçu. Là, ce que tu m'as fait là, jamais. Jamais. Ça tue. Ça donne des ulcères, ça donne des crises d'asthme. Anne-Sophie pourrait décrire beaucoup mieux que moi toutes ces psychosomatisations. Mais... c'est quelque chose qui me mine. Mais il y a aussi le pardon non reçu. Je ne te demanderai pas pardon, mais je ne le recevrai pas. Tu peux me demander pardon, mais je ne le recevrai pas. Et ça me charge. Et puis il y a mes complexes. Les complexes d'infériorité. Je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas possible, mais non, je ne suis pas compétent, mais... Et puis, il y a mes complexes de supériorité. Je suis quand même un chrétien évangélique. J'ai une autre révélation. Moi, je possède la vérité. Et donc, les autres possèdent le mensonge. Et ils sont, alors je me dois. Et là, on développe un complexe de supériorité. Ça peut être même dans notre propre dénomination. Ça peut être tribal. Hein, on est du sud-ouest, c'est quand même pas... C'est pas la même chose, là. C'est vosgien. C'est quand même... Je le dis facilement parce qu'on est à quoi 25 kilomètres à peu près l'un de l'autre. Mais on peut développer ça. Et je peux vous garantir qu'en Afrique, c'est encore plus important. Et le dernier que j'ai donné, que je mettrais, ce sont mes dépendances. Et les dépendances, on parle souvent d'alcool et drogue. C'est un peu facile. Il y a des dépendances qui sont beaucoup plus pernicieuses. Je vais en citer quelques-unes. La famille. Dépendance à la famille. Mais Seigneur, tu as dit que celui qui ne s'occupait pas prioritairement de sa famille était pire qu'un païen. Mais quand même, je crois que je dois passer un petit peu avant. Dépendance à la famille, au point qu'il n'y a plus que la famille. Ma vie tourne autour de mon enfant ou mes enfants, tourne autour de mes petits-enfants. Je dis ça parce qu'on a failli tomber dans le panneau. Et puis alors, il y a le copain de la famille, ce sont les loisirs. Mais quand même, je dois me détendre. Ouais, mais à un moment, j'ai l'impression qu'à part détendre, tu fais que ça, quoi. Tu dois être vachement détendu, hein. Il peut y avoir, alors je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé là-bas volontairement. Vous savez, c'est un truc qui est un peu rectangulaire comme ça. Il y a plein de trucs dessus. Tu m'écoutes ? Ouais, ouais. Et alors, si vous ne l'avez pas, vous êtes mort. Un des grands ennemis des missionnaires s'appelle smartphone et s'appelle ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en contact avec tout le monde, sauf ceux avec qui ils doivent être en contact. Ah, ils sont en contact avec le Canada, l'Australie, la Chine et tout ça, mais ils sont appelés là et ils ne sont pas en contact avec les gens. Ils communiquent. Bon, quand je regarde ce qu'ils communiquent, c'est peut-être pas forcément d'une haute teneur, mais ils communiquent. Mais ma technologie peut être un problème. Je me rappelle d'une fille qui était venue travailler à l'hôpital et puis elle a dit « Je pourrais pas revenir, il n'y a pas le cinéma. » Ah ouais ? D'accord. Un autre couple missionnaire qui était passé chez nous, à l'époque on était encore au Bénin la première fois, et qui a dit « Je pourrais pas revenir, il n'y a pas l'électricité. » « Bah si, mais c'est dans la traduction, panneau solaire pour tes ordinateurs. » « Non, j'ai un four à micro-ondes. » Ah ouais, ça c'est sûr que c'est pas assez fort, hein. Il n'est pas venu. Ma technologie peut être un handicap, mais ça peut être aussi l'argent. Hein ? Moi, en dessous de 10 000 euros par mois, je ne travaille pas, hein. Bon, je me suis trompé de mission, là. Ça peut être le confort. J'ai besoin de ce type de confort. Et ça m'empêche parce que le Seigneur m'appelle des fois à aller dans des endroits où le confort est quand même très relatif. Une fois, je suis allé dans un village pour un enseignement, pour le week-end, et j'ai eu la plus grande chambre du village. Ben oui, j'avais la salle de culte. J'avais mon lit picot, ma moustiquaire. Bon, après, je ne vous décrirai pas les toilettes, les douches, c'est un peu particulier. Donc mon confort a été limité. Mais pour la chambre, c'était génial. Hein. Bon, la clim, c'était pas au point. Sous le toit de tôle, au soleil, ça chauffait. Hein. Qu'est-ce qui va encore me... Ça peut être le travail, ça peut être mes amis. Qu'est-ce qui crée ma dépendance et qui fait que je ne suis pas capable de laisser ça à Dieu ? Et toutes ces choses-là, ce qui est extraordinaire, c'est que je ne les prends pas en un coup. Je les prends progressivement. Et donc, je ne les vois pas. Vous savez, c'est comme les emplois du temps. Ils se chargent progressivement parce qu'on dit « Oh, ça, c'est pas grand-chose, ça va me prendre un petit peu de temps. » Puis finalement, à la fin, il n'y a plus de temps, quoi. Même pour respirer. Et ces fardeaux, on les prend, comme ça, les uns après les autres. Et on ne s'en aperçoit plus, mais à un moment, on peut plus marcher. On est scotché. Mais on a l'impression que tout va bien. Mais on a tous ces fardeaux. Et le Seigneur nous dit « Débarrasse-toi. » Et la question, c'est la première question que Dieu te pose aujourd'hui. Tu t'en débarrasses ou bien tu les gardes ? Tu auras les conséquences qui vont avec, mais qu'est-ce que tu vas faire ? La deuxième chose, c'est le péché. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs expressions qui nous enveloppent, qui nous enlacent, qui nous cernent. Mais c'est toujours si facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose... En fait, souvent, on parle de tomber dans le péché. Vous êtes d'accord ? Quelqu'un nous a dit, il y a quelques mois, on ne tombe pas dans le péché, on y glisse. Et j'ai trouvé l'expression plus juste. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça, c'est souvent comme ça. Tranquille. On y va doucement, mais sûrement. Et on tombe dedans. Alors, je ne vais pas parler de péché, adultère, trucs comme ça. Ça, on en parle, ce n'est pas un problème. Je vais parler de ceux dont on ne parle jamais. Et je vais seulement en citer 5. C'est pas beaucoup. Mais 5 qui, je pense, nous empêchent de courir. Le premier que je citerai, c'est l'orgueil. Rappelez-vous les disciples de Jésus. Jésus leur annonce, je vais mourir, je vais souffrir. Et eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Qui c'était le plus grand? Moi, je me suis longtemps moqué des disciples jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je faisais pareil. Et là, je me suis trouvé plutôt bête. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que mon orgueil, ma manière de faire, de supériorité, où parfois je me prends pour plus grand que Dieu, eh bien, m'empêche de courir. Ça m'enlace. Le deuxième que je citerai, ce sont les inquiétudes. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais les inquiétudes, je rappelle que c'est un péché, ne vous inquiétez de rien. Si on mettait sous discipline, nous là, hein, on est entre nous, si on mettait sous discipline chacun qui s'inquiète, qui n'est pas sous discipline? Bon, moi non plus, je ne lève pas la main. On s'inquiète très facilement. Alors que la première des choses qu'on devrait dire, Seigneur, c'est entre tes mains, je lâche tout. Mais c'est là que devant la difficulté, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye de trouver des trucs à bidouiller pour arriver à quelque chose. Et puis ça ne marche pas. Ou alors quand ça marche, après les conséquences ne sont pas forcément drôles. Le troisième, qui est le pire, quel plus grand des péchés, puisque c'est celui qui est impardonnable quand il est mené jusqu'au bout, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce péché qui consiste non pas simplement à ne pas faire confiance en Dieu, ce qui est déjà grave, c'est surtout déclarer que Dieu est menteur. Puisque s'il promet quelque chose, c'est qu'il va le faire. L'incrédulité consiste à dire qu'il ne va pas le faire. Et c'est en ça que c'est grave. Et l'incrédulité, là aussi, hein, si on se mettait sous discipline pour incrédulité, qui c'est qui n'y serait pas? En tout cas, moi j'y serais. L'incrédulité est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui nous encombre. Le quatrième, c'est le manque d'amour. Comme disait une fois un pasteur, il disait, c'est fou ce qu'on parle d'amour, c'est fou ce qu'on on le pratique peu. Le manque d'amour pour Dieu, le manque d'amour pour les autres. Rechercher le bien des uns et des autres. Considérer ses intérêts comme étant inférieurs aux intérêts des autres. Facile à dire, hein? Moins facile à faire. Et le dernier que je citerai, c'est mon désir de décider ce qui est bien de ce qui est mal. Vous allez me dire, non, non, non. Nous, il n'y a que la Bible. Mais quand on est devant une décision à prendre, quelle est la question que nous posons aujourd'hui? Nous ne demandons pas « est-ce que c'est bien ?» On demande « est-ce que c'est mal ?» Vous avez remarqué? Est-ce que c'est mal? Sous-entendu, si c'est pas mal, c'est que c'est bien. En fait, la Bible définit ce qui est bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. En gros, le plaire à Dieu, c'est être utile et édifié. Ça n'édifie pas, au revoir. C'est pas utile, au revoir. Et vous voyez que la notion de plaisir va dépendre non pas de ce que moi je décide qui est plaisant, mais de l'utilité et de l'édification. On est complètement dans un autre registre. Et ça, ça m'empêche d'avancer. Et il nous enveloppe, il nous prive de notre liberté. En fait, il faut considérer le péché comme étant un gros boa. Vous savez que le boa a cette particularité, il ne pique pas. Ce n'est pas une vipère, il ne pique pas. Il fait quelque chose, c'est qu'il, doucement, ou sûrement, il s'entoure. Il se met autour de sa proie. Et puis après, il fait les abdos. Et vous finissez en hamburger. Enfin, la partie viande, hein. Il vous broie, tout simplement. Et c'est exactement ce que fait le péché. Doucement, Ça ne se voit pas. C'est insidieux, ça se met progressivement. C'est même à la limite agréable. Le péché est agréable, sinon on ne le ferait pas. Et puis, bon. Et qu'une fois que vous êtes dedans, il n'y a que Christ pour vous en délivrer. Et ce que Dieu nous demande, c'est de courir. Une des choses qui m'a interpellé, c'est qu'il est rarement parlé de marcher. Dans la vie chrétienne, il est parlé de courir. Courir, c'est vouloir avancer vite. Et vous comprenez que l'indécision, c'est quelque chose qui est l'ennemi de la course. J'ai imaginé un coureur, mais vous savez, les Jeux Olympiques, hein, pas le petit coureur comme moi qui s'essouffle au bout de 50 mètres. Le gars, et il est en train de se poser la question, voyons voir, comment est-ce que je pourrais lever le pied arrière pour pouvoir avancer. Puis quand il est là, il se pose la question, où est-ce qu'il pourrait la déposer? Imaginez un coureur comme ça, ça serait rigolo. Bolt, là, je le vois courir comme ça. Ça donnerait des résultats assez étonnants. Et la course, on a le temps. Là, vous avez le temps d'aller prendre le repas avant qu'il ait fini le 100 mètres. Toutes ces choses qui nous ont encombrées, que Dieu nous demande d'arracher, le but, c'est de pouvoir courir et courir vite. Mais je me suis amusé à regarder sur Internet la décomposition d'une course. Quand vous marchez, vous avez un pied, puis vous passez en insécurité. Vous n'êtes plus que sur un pied, mais vous déposez le pied et vous êtes de nouveau avec deux appuis. Mais dans la course, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous commencez bien, vous avez les deux pieds, puis ensuite vous avez plus que sur un pied, puis à un moment vous n'avez plus de pied par terre. Vous êtes dans l'insécurité absolue parce que vous ne savez pas comment ça va retomber. C'est comme ça qu'on finit aux urgences, parce qu'on est mal retombé, puis ça fait une entorse. Avec Dieu, on court. Et il y a des grands moments d'insécurité. Et c'est là, comme on a déposé les fardeaux, on peut avancer, parce que Dieu pourvoit. Dieu sait où le pied va retomber. Il sait là où il va nous amener. Et tout à l'heure, Vincent rappelait l'histoire de Joseph. Joseph, il est tout seul dans sa prison, il est abandonné de tous. Mais en réalité, Dieu a déjà prévu la chose. Seulement, Joseph, lui, ne le sait pas. Et dans notre course, on court, et on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Quand on est arrivé au Bénin, cette fois-ci, on avait une idée à peu près de ce qui allait se passer, mais je n'ai jamais imaginé que les portes puissent être aussi grandes ouvertes. Je n'ai jamais imaginé que j'allais travailler avec 38 dénominations. Je n'ai jamais imaginé que les gens allaient venir jusque à la maison pour dire « maintenant il faut venir nous enseigner, maintenant il faut venir nous aider, viens !» Je n'ai jamais imaginé ça. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça fait plaisir, et dans un deuxième temps, on se dit « oui, c'est bien !» Je me sens important, mais alors là, je me sens tout petit aussi, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et de dire « Seigneur, au secours !» pour qu'on puisse avancer. Bien sûr, Dieu vous fournira des équipiers, je ne serai pas tout seul. Mais n'empêche que il faut bien aussi se préparer, s'entraîner pour la course. Et on est dans cette course, et on doit la gagner. Avec Dieu, il y a un mot qui n'existe pas, c'est le mot démission. On avance. Et on doit arriver jusqu'au bout, et le but, c'est de gagner. Ce n'est pas simplement de participer. Ce n'est pas la loi de Coubertin. La loi de Dieu, c'est on court pour gagner. Je ne sais pas comment vous courez. J'essaye de courir pour gagner. Je n'ai pas envie de perdre. Mais Dieu nous donne les deux aspects qui sont fondamentaux pour pouvoir gagner. Le premier, c'est avec persévérance, et le deuxième, c'est en ayant les yeux fixés sur Jésus. Avec persévérance, c'est justement ce qui va m'aider à continuer. Combien de fois, avec Christiane, on s'est dit, on arrête, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y avait des tas de choses qui arrivaient. Des gens qui doivent vous soutenir, c'est ceux qui vous coulent le plus. Les circonstances qui ne vont plus. C'est vrai que quand on commence à voir toutes les réparations qu'on doit faire sur la voiture, à un moment on se pose la question, à part la carrosserie, est-ce qu'on va garder quelque chose? Le Seigneur nous permet un pas après l'autre. Et comme Christiane l'a rappelé, quand on était au plus bas, c'est là qu'il a envoyé juste le petit truc qui nous permettait de faire le pas suivant. Et parfois la course, c'est justement ça, un pas après l'autre. On voudrait déjà voir le résultat au bout. Non, non, et c'est pour cela qu'on a cité ce cas d'Emmanuel, 25 ans plus tard. Je ne savais pas tout ce qui était arrivé à ce gars, comment Dieu avait travaillé. Et puis en ayant les regards sur Jésus, rappelez-vous Pierre, il est fou ce type. Il est fou. Il est dans le bateau, la mer est quand même pas si calme que ça, il voit Jésus qui arrive, et ben permets que j'aille te voir. Hein, s'il était un petit peu sensé, il aurait tout de suite réalisé que ce n'était pas possible. Mais il le fait. Jésus lui dit, viens. Et Dieu va nous faire faire des choses folles. Hein, je suis un petit peu l'histoire du bâtiment, c'est un peu fou votre histoire. Mais ça avance. Il y a des tas de choses que le Seigneur fait, et nous fait faire, qui sont folles. Mais c'est dans ses plans. À une condition, c'est qu'on ait les yeux fixés sur lui. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à raisonner, à se demander si c'est raisonnable, à partir du moment où on va commencer à dire « Hey, qu'est-ce qui m'arrive là? Mais je suis sur la flotte! Faut arrêter quoi !» Et là, en ce moment-là, on coule. Quand on commence à devenir raisonnable aux yeux des hommes, qu'on arrête d'avoir les yeux fixés sur Christ. Franchement, vous croyez, vous avez toujours entendu parler de Boko Haram, d'accord? Vous croyez qu'ils peuvent se convertir? Non mais, c'est une question, hein, c'est pas une... Vous croyez qu'ils peuvent se convertir? Hein? Actuellement, il y a des gars de Boko Haram qui se convertissent. Il y a des gars de Boko Haram qui se convertissent. Pour Dieu, il n'y a pas de choses impossibles. Un des anciens directeurs de la CIM disait « Il n'existe pas de peuple inatteignable, il n'existe que des peuples non atteints. » C'est-à-dire des peuples où on n'a pas encore annoncé. Alors ça peut être des peuples, ça peut être des régions, ça peut être des villages, ça peut être des quartiers. Hein. Je suis sûr que même à Toulouse, on doit trouver des endroits où les gens, quand vous leur demandez « Vous avez entendu parler de Jésus ?»« Je sais pas, moi je m'occupe pas des voisins. » T'es un Espagnol ? Hein ? Vous avez ces personnes-là. Ils sont non atteints, mais pas forcément inatteignables. Je rappelle juste quelques versets qui pour moi en tout cas sont importants. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Les enfants nous l'auront rappelé ce matin. Ça m'a fait du bien. Éphésiens 2:10. Dieu a un plan de paix et non de malheur. Et il l'a dit à un gars qui s'appelle Jérémie, c'est le mec. Alors c'est l'anti-théologie de prospérité, lui. Hein. Tout ce qu'il a entrepris, ça a foiré. Et pourtant, c'est par lui que va revenir le retour d'Israël, la restauration. Ce n'est pas à Dieu de rentrer dans nos plans. Nous, on fait des plans, puis on dit « Seigneur, bénis-les ». Non, non, c'est le contraire. C'est nous, Seigneur, montre-nous tes plans pour que nous puissions y rentrer. Et là, on est sûr que c'est béni. La vie chrétienne est loin d'être un fleuve tranquille. Très loin. C'est une course avec l'objectif gagné. Et pouvoir dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course. La couronne m'est échue. Que nous puissions vraiment avoir cet aspect. Mais rappelez-vous, pour gagner cette course, ce n'est pas parce que vous prierez plus, que vous lirez plus la Bible, que vous serez plus des meilleurs techniciens dans la chorale et dans la musique. Ce n'est pas parce que vous ferez des grands exploits dehors. Non, il y en a même certains, ils diront à Jésus un jour, « Mais est-ce que je n'ai pas prophétisé en ton nom? Je n'ai pas fait des miracles en ton nom ?» etc. Puis ils diront, « Bon, je ne te connais pas. » Mais quand on s'est débarrassé de tout cela, on peut courir léger et on peut courir vite. Regardez les sportifs de haut niveau. Vous les avez vus chargés Non. Ils n'emportent pas l'ordinateur, le truc comme ça. Ils voyagent. Ils font très, 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 très léger. Et le plus efficace possible. J'aimerais prier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous nous encombrons inutilement de tout ce qui nous semble tellement utile. Et qui nous empêche de courir. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyons tout ce que toi tu veux qu'on se débarrasse. Et qu'on ait ce courage, cette force de se débarrasser, cette volonté de se débarrasser de tout ce qui nous a encombré jusque-là, qui est peut-être légitime, certes, mais qui n'a rien à faire là, parce que c'est à tes pieds que ça doit se trouver. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici. Bénis-les, fortifie-les pour qu'ils puissent courir vite, pour qu'on puisse remporter cette course, pour que, non seulement dans cette ville de Toulouse, mais jusqu'aux extrémités de la terre, ta parole soit annoncée, pour que ce témoignage puisse se faire, qu'on ne se laisse pas impressionner par tout ce qui pourrait arriver, les difficultés, le manque de confort, je ne sais trop quoi. Mais Seigneur, que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses, que tu nous en donnes la force. Et Seigneur, vraiment, pousse-nous pour que nous puissions aussi les voir, même peut-être des choses que nous estimons être normales et légitimes. Accorde à chacun, Seigneur, la sagesse pour pouvoir être selon toi et être dans tes plans, afin que nous puissions les pratiquer. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci. Je voulais relever sur tout ce qui a été dit, une pensée encore. Il dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Et là, il y a une clé pour la vie du chrétien, c'est que pour remporter une telle victoire, pour sauver une multitude d'âmes, Jésus a souffert la croix. Il a accepté quitter le ciel, descendre, de s'humilier. Il a accepté la souffrance, il a accepté ce qui semble l'inacceptable pour Dieu. Il l'a accepté parce que c'est en perdant qu'on gagne. Et c'est ça le message de l'évangile. Quand on perd, on gagne. Et se décharger, c'est perdre. C'est ça, perdre. C'est penser que ce qui nous semblait tellement important, en réalité, ça, c'est ce qui nous perd. Et quand on accepte de fixer nos regards sur Jésus, quand on fixe nos regards sur la croix, à ce moment-là, les choses, on peut vraiment les perdre. Parce qu'on a Jésus qui suscite la foi dans nos cœurs.